Avec Guillaume Lavoie, pas de détour. Seulement un lien direct vers des solutions logiques.
Vous avez peut-être vu ce dossier très intéressant dans le Journal de Montréal où on parle de la plantation des arbres, notamment autour des infrastructures routières. Il était question, entre autres, des arbres qui avaient été plantés autour de l'échangeur Turcot. Et l'idée, c'est d'essayer de compenser les effets sur l'environnement, les émissions de gaz à effet de serre avec un certain nombre d'arbres. Mais quand on regarde après les annonces politiques du moment, puis la belle photo où tout le monde est heureux en se disant « voici combien d'arbres on a planté », quand on regarde la suite des choses un an après, c'est plutôt une forêt de chicots qui passera peut-être pas l'hiver. Alors justement, pour penser cette polémique-là, comment est-ce qu'on fait pour faire un véritable bilan de notre plantation d'arbres le long des infrastructures routières? Est-ce qu'on a les bonnes approches? Est-ce qu'on pourrait le faire mieux? Allons rejoindre Claude Villeneuve, qui est biologiste, professeur titulaire au département de sciences fondamentales à l'Université du Québec à Chicoutimi, mon coin, le plus beau coin au monde, et qui est aussi directeur de la chaire en éco-conseil. Bonjour, Monsieur Villeneuve.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, parlez-nous d'abord de quelle était la politique générale, ou à tout le moins l'objectif recherché, quand il y a des infrastructures routières, puis le ministère des Transports dit « ben on va planter des arbres, puis tout ça va se compenser ou s'annuler ».
Bon. Alors, premièrement, il faut comprendre que les arbres, ce sont des capteurs de CO2. Donc, dans leur croissance, ils transforment le gaz carbonique qui est dans l'atmosphère et ils le transforment en biomasse, en carbone, si on veut, qui est fixé. En particulier dans le bois, dans les racines, dans les branches. Et ça, ce carbone-là, lui, contrairement au CO2 qui est libéré dans l'atmosphère par des travaux, le béton, les machineries, il ne contribue pas au changement climatique parce qu'il est capté, il est stocké. Donc, en principe, l'équation se fait, la croissance des arbres, elle vient compenser pour des émissions de carbone qui a été faite pour le travail de construire l'échangeur.
Puis là, on comprend que plus l'arbre est gros, plus efficace ou plus important est la captation d'émissions de carbone. Là, il y a un lien.
La captation d'émissions de carbone varie en fonction de l'âge de l'arbre, mais elle se poursuit tout au long de sa vie. Naturellement, le stock de carbone, lui, plus l'arbre est gros, plus il stocke de carbone.
Bon, comment ça se fait que on se retrouve, par exemple, le cas là, de l'échangeur Turcot, un an après, moi j'invite les gens à aller voir les photos dans le Journal de Montréal, ça fait dur, il n'y a pas là une forêt en croissance, là. Est-ce qu'on se trompe dans notre stratégie? Comment est-ce qu'on peut mieux faire ça?
Bon, si vous allez voir sur le site de Carbone Boréal, Carbone Boréal, c'est une initiative de recherche qu'on a démarrée en 2008 et qui, justement, donne les règles pour bien faire les choses quand on plante des arbres. Parce qu'il y a, dans le domaine de la compensation carbone, il y a des garanties qu'on doit donner et les arbres doivent être protégés. Il doit y avoir des mesures de croissance qui sont faites pour qu'on soit clairement dans un exercice comptable qui n'est pas de tricherie. Donc, en principe, la manière de faire, c'est d'avoir des arbres qui sont protégés, des arbres qui sont dans des bonnes conditions de croissance et de s'assurer qu'ils vont faire au bout du compte la séquestration de carbone qui est équivalente aux émissions qu'il y a eu. Malheureusement, beaucoup de monde ne font pas ça.
Oui, Claude Villeneuve, dites-nous, là, parce que moi, je pense qu'on invente rarement les choses, là. Où sont les meilleures pratiques? Qu'est-ce qu'on devrait regarder? Dites-nous un exemple, là. Ça, sur le bord de telle autoroute ou dans tel pays, ils ont vraiment la meilleure des pratiques et c'est ça qui devrait nous inspirer.
C'est pas facile. Premièrement, je vous dirais, la meilleure pratique est encore à définir, dans le sens où c'est toujours une hypothèse. Nous, on travaille justement parce qu'on est en recherche scientifique, qu'on essaye d'établir, de tester les limites du modèle. Okay? Fait que je vous encourage à aller voir là. Mais des gens qui font bien les choses, il y en a. Il y a des protocoles qui sont établis pour être capable d'avoir des plantations compensatoires. Ces protocoles-là sont encadrés par des normes.
Mais c'est qui les meilleurs?
Les meilleurs, c'est certainement pas le gouvernement du Canada qui a dit qu'il planterait 2 milliards d'arbres et qu'il n'y en a pas encore 30 millions de plantés, qu'il n'y a pas de système de validation de la croissance ou quoi que ce soit.
Mais là, vous touchez un point.
C'est peu probable, oui.
Ben, parce que, est-ce que, moi, je pense vraiment que ce qui nous manque dans la vie, c'est des meilleurs comptables ou plutôt des meilleurs indicateurs comptables. Oui. Le maudit indicateur d'arbres plantés, qui est espèce de qui gouverne les communiqués de presse puis qui oriente toutes nos actions, ouais, ça veut rien dire. Est-ce qu'on devrait pas prendre un indicateur comptable qui a du sens? C'est-à-dire, il y a combien d'arbres?
Le seul indicateur comptable, c'est celui du carbone fixé. OK? Alors, si vous dites, et non seulement fixé, mais fixé de façon durable. OK? Parce que, en principe, quand on parle de compensation, il faut être capable d'établir un horizon de 100 ans. Okay? Donc, le blé d'Inde, là, il fixe du CO2, mais vous allez le manger au bout d'un an, il va être reparti dans l'atmosphère.
Oui, mais là, juste pour nos auditeurs...
C'est la même chose. Il faut que vous ayez une garantie qu'ils vont être encore là dans 100 ans.
Oui, mais il n'y a pas beaucoup d'arbres tant que ça qui sont centenaires sur le bord des autoroutes.
Oh, oui. Oui, mais c'est pas des arbres qui ont été plantés aujourd'hui qui sont centenaires. Mais il faut qu'on donne les conditions pour que l'arbre qui est planté aujourd'hui puisse avoir 100 ans. Donc, il faut le protéger contre les chevreuils quand il est petit. Il faut le protéger contre le feu quand il est plus grand. Il faut le protéger contre la grêle du frêne. Il faut le protéger contre tout ça. Et il faut s'assurer que si lui, il y a une petite faiblesse pour une raison génétique, comme on est tous des êtres vivants, il faut avoir un copain à côté qui n'est pas compté dans la séquestration et qui, lui, va rester même si le premier meurt. Puis comme on a des normes à respecter, il faut être conservateur. Donc ouais, nous, par exemple, on plante 30% plus d'arbres que ce qu'on attribue. Donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir 30% de mortalité puis on aurait encore réellement séquestré le carbone.
Donc
pas l'arbre planté qui est le bon indicateur, mais la quantité de CO2 qui a été captée réellement.
Claude Villeneuve, on a quelque chose ici, c'est-à-dire de changer d'indicateur pour essayer pour cesser de se berner collectivement et pour faire des meilleures conférences de presse en réfléchissant en termes d'arbres plantés, c'est pas le bon indicateur. Et encore moins, c'est ce que j'entends, pour être capable d'être sérieux, d'avoir un budget qui ne concerne pas uniquement la plantation, mais l'entretien pour se permettre d'avoir des arbres qui vont être capables de faire une période beaucoup plus longue. Claude Villeneuve.
Plus encore, quand on fait une affirmation carbone avec un arbre, il faut qu'elle soit vérifiée par un tiers indépendant.
Bon, mais vous avez...
Nous, c'est le Bureau de normalisation du Québec qui fait la vérification. Les rapports de vérification sont sur le site et ils vous disent que chaque arbre qui a été attribué va capter la quantité de CO2 et qu'il n'est pas compté deux fois et qu'il est réellement, il a été vérifié, il est là.
Parfait.